est 9h à Paris, 8h en temps universel et à Dakar. Merci d'écouter RFI. Dans 10 minutes, vos questions sur l'actualité et dans 40 minutes, vos réactions sur les violences qui ont émaillé la campagne des législatives au Sénégal. La tension va-t-elle retomber d'ici à dimanche ? Jour du vote, on en parle, mais d'abord le journal. Bonjour François Ballerin.
Bonjour Juan, bonjour à tous. Une semaine après les violences en marge de la rencontre Maccabi Tel Aviv, Ajax d'Amsterdam rencontre à haut risque entre l'équipe de France et celle d'Israël pour le compte de la Ligue des Nations ce jeudi soir à Paris et autour du Stade de France. Le préfet prévoit un dispositif de sécurité exceptionnel. Nous ne sommes pas là pour supplier, mais pour montrer que nous sommes tous concernés. Les mots à la COP29 du Premier ministre de la Grenade, frappé par le dérèglement climatique. Et c'est l'un des objectifs principaux de cette conférence pour le climat, multiplier par 10 la somme allouée aux pays les plus pauvres pour s'adapter au réchauffement. Plus d'un mois après la présidentielle au Mozambique, la contestation ne faiblit pas. Si la situation semblait plutôt calme hier dans la capitale, 6 personnes ont été tuées, 8 autres blessées par balles dans le nord du pays. Législative décisive au Sri Lanka, moins de 2 mois après l'élection du président Dissanayake. Le scrutin pourrait remodeler le paysage politique du pays, 2 ans après la faillite qui a conduit à la chute du président Rajapaksa. Un dispositif de sécurité impressionnant donc pour le match France-Israël prévu ce jeudi soir au Stade de France près de Paris. Après les violences d'Amsterdam il y a une semaine, en marge de la rencontre Maccabi Tel Aviv-Ajax d'Amsterdam, la rencontre est considérée comme à haut risque par les autorités françaises. Marie Cazadebet.
Le préfet de police de Paris promet un dispositif très inhabituel. 4000 membres des forces de l'ordre, 2500 policiers et gendarmes autour du stade, 1500 dans les rues de Paris et dans les transports, soit le double d'un match international. Et ce, alors que moins d'un tiers des tribunes du Stade de France seront remplies. La Fédération française de football table sur 20 000 places occupées sur les 80 000 du site. Ce sera la plus faible affluence pour les Bleus dans ce stade mythique. Il faut dire que le contexte sécuritaire, les violence d'Amsterdam, mais aussi l'ouverture très tardive de la billetterie, la tenue de la rencontre a longtemps été incertaine. Tout cela a refroidi les supporters français. Et pour ce qui est des Israéliens, les autorités de l'État hébreu les ont appelés à ne pas se rendre en France pour des questions de sécurité. Seule une centaine de personnes devraient donc faire le déplacement et rejoindre en tribune une zone de parcage dédiée aux visiteurs. Dans l'ensemble du stade, les premiers rangs, les plus proches des joueurs, resteront de toute façon vides afin d'éviter toute intrusion sur la pelouse.
Marie Cazadebet, coup d'envoi de cette rencontre à 19h45 en temps universel. Et à la veille de ce match France-Israël, plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce mercredi soir à Paris pour dénoncer la tenue du gala Israel is Forever, un événement de soutien organisé par plusieurs personnalités de l'extrême droite israélienne, dont le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, qui n'était pas physiquement présent en France. Pendant ce temps, au Proche-Orient, la tension entre Israël et le Hezbollah ne retombe pas, elle est même encore montée d'un cran. Mercredi, avec l'annonce de la mort de 6 soldats israéliens et des frappes contre le Liban qui ont fait au moins 8 morts. Et ce matin encore, c'est la banlieue sud de Beyrouth qui a de nouveau été frappée par l'aviation israélienne après un appel de l'armée à évacuer. Moins de 10 jours après sa victoire à la présidentielle, Donald Trump continue à former et à nommer, pardon, les futurs occupants des postes clés de son administration. La rumeur est maintenant officielle. Le sénateur de Floride, Marco Rubio, connu pour ses positions très dures sur la Chine, est confirmé au poste de secrétaire d'État. Et puis Tulsi Gabbard, transfuge démocrate devenue républicaine, est-elle nommée directrice nationale du renseignement. 4e journée de la COP29 sur le climat à Bakou, en Azerbaïdjan. Les participants entrent dans le dur des négociations. Objectif de cette édition, réévaluer à la hausse les financements en provenance des pays riches à destination des pays en développement pour que ces derniers puissent financer leur transition, s'adapter aux conséquences du réchauffement climatique. C'est également un enjeu de justice. On rappelait hier de nombreux chefs d'État et de gouvernement à la tribune, étant donné la responsabilité historique des pays riches dans le réchauffement. Simon Rosé.
Deacon Mitchell, le ton grave à la tribune. Le premier ministre de la Grenade, alors que son pays est en ce moment frappé par des pluies et des inondations.
Nous ne sommes pas là pour supplier, nous ne sommes pas là pour votre sympathie, mais pour montrer que nous sommes tous concernés. Ce sera l'Espagne demain, ce sera la Floride le jour d'après.
Il rappelle l'impératif, il faut plus de financement pour les États en développement. Il a été rejoint par de nombreux autres, comme le Bangladais Mohamed Yunus, qui a dénoncé la situation humiliante des pays pauvres contraints de mendier de l'argent pour résoudre les problèmes causés par leurs homologues plus riches. L'objectif, c'est de multiplier par 10 la somme actuelle, 100 milliards de dollars par an. Les chefs d'État et de gouvernement quittent Bakou. Le travail se fait désormais dans les salles de négociation. Un nouveau brouillon d'accord a été présenté, bien plus long que le précédent, plus de 30 pages. Reste à voir si cette inflation témoigne de tensions entre les parties, car de la tension, il y en a eu. Le départ de la délégation argentine rappelé au pays par le président climato-sceptique Javier Milei et les propos du président azerbaïdjanais contre la France, responsable à ses yeux de crimes en Nouvelle-Calédonie. La réponse de Paris ne s'est pas fait attendre. La ministre de l'Environnement n'ira finalement pas à Bakou pour la dernière ligne droite des négociations.
En bref, au Brésil, les autorités parlent d'attaques manquées après que deux explosions ont été entendues à proximité de la Cour suprême à Brasilia ce mercredi soir. Après les déflagrations, un homme portant des explosifs a été retrouvé mort devant le bâtiment. Les juges et le personnel de la Cour suprême avaient été évacués du bâtiment par mesure de sécurité. Les présidents américains et chinois attendus au Pérou ce jeudi, Joe Biden et Xi Jinping se retrouvent à Lima pour participer à un sommet des pays de l'Asie-Pacifique dans un climat tendu par la perspective de nouvelles guerres commerciales sous la présidence de Donald Trump. Les deux dirigeants ont prévu de se rencontrer samedi en marge du sommet de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique qui réunit 21 pays membres. Au Mozambique, au moins 6 morts hier mercredi dans la répression des manifestations à Nampula dans le nord du pays. C'est un premier bilan de l'organisation de la société civile, plateforme électorale Décide, qui déplore également 8 blessés par balle dans la capitale provinciale. Hier marquait le début de la quatrième phase de la contestation électorale à l'appel de Venancio Mondlane, le candidat malheureux à la présidentielle. À Maputo, la capitale du pays, la situation est restée calme, mais la motivation demeure. Pierre Firsion.
Dans le quartier de Machakene, on voit toujours des traces de pneus brûlés sur la route, stigmates de manifestations passées. Hier, la vie a pourtant suivi son cours. Comme tant d'autres, Elisio est allé travailler.
On n'est pas fatigué des manifestations, mais on a faim. On doit travailler. Quand il y a manifestation, ce sont des entreprises qui ferment, des minibus qui ne circulent pas. Les gens sont renvoyés chez eux, ils restent sans emploi. C'est déjà difficile. Imaginez quand on perd tout.
Depuis le début de la crise, les autorités mozambicaines jouent la montre, tout tombant dans les muscles. En ville, le déploiement policier est impressionnant. Nelson soutient le mouvement, mais il a peur.
Certains ont perdu la vie. Aujourd'hui, même si on continue à travailler, on donne du pain, de l'eau aux manifestants dans la rue. Je ne suis pas fatigué des manifestations. Je veux juste que les choses s'améliorent. Beaucoup n'ont pas d'emploi, n'ont rien.
Assis sur son triporteur, Guerra n'est pas inquiet. La contestation est loin d'être finie. Les manifestants attendent juste le bon moment.
Tout semble normal, mais ça ne l'est pas. Préparez-vous à courir, car nous allons mettre le feu. Tout le monde sera là. Hier, ce n'était que le début de la quatrième phase. Mais demain, il y a un match de foot qui risque de ne jamais démarrer à cause des manifestations.
Demain, l'équipe du Mali rencontrera celle du Mozambique à Maputo. Match qualificatif pour la CAN. Les autorités ont déjà prévenu qu'il serait sous haute surveillance.
Pierre Firsion. 17 millions de Sri Lankais appelés aux urnes ce jeudi pour élire leurs députés à l'occasion des législatives anticipées convoquées au lendemain de l'investiture du nouveau président Anura Kumara Dissanayake, élu le 21 septembre dernier. Élection décisive qui pourrait remodeler le paysage politique Sri Lankais 2 ans après la faillite qui a conduit à la chute du président Rajapaksa. Les précisions de Yelena Tomic.
Tout l'enjeu pour le président Dissanayake, un ancien marxiste reconverti à l'économie de marché, sera de garantir une majorité parlementaire qui permettra à son gouvernement de mettre en œuvre ses promesses électorales, notamment de débarrasser le pays de la corruption, d'accroître la transparence, mais aussi de poursuivre les réformes macroéconomiques dictées par le FMI tout en allégeant le fardeau des plus pauvres. Les attentes de la population, confrontée il y a 2 ans à la pire crise économique de l'histoire, sont énormes. Si la coalition de Dissanayake, le pouvoir national du peuple, n'obtient pas la majorité, il sera contraint à des alliances et peut-être même une cohabitation avec une figure de l'opposition représentant les puissantes élites politiques, pourtant largement rejetées lors de la présidentielle, car accusées d'avoir précipité le pays dans la faillite. Le prochain parlement pourrait toutefois voir apparaître une majorité de nouveaux visages issus en partie de la société civile, incarnant une une vraie alternance politique et un renouvellement de la classe politique sclérosée du pays.
Yelena Tomic, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous retrouvez tout de suite Appel sur l'actualité avec Juan Gomez.
Et merci à vous François Ballerin de nous avoir informés. Restez avec nous dans 30 secondes. RFI vous donne la parole. À tout de suite.